Je suis avec Stéphane Kraus suite à la projection lors du Festival des Utopiales d'une séance spéciale, à savoir un documentaire sur Bernard Werber intitulé Bernard Werber, le conteur du futur. Bonjour.
Bonjour.
Je voulais vous remercier d'avoir permis la projection aux Utopiales, puisque d'après ce que vous nous avez dit après la projection, le documentaire n'est pas encore dans sa version définitive.
Exactement, on était tout chaud, tout chaud. C'était une des toutes premières projections, presque une projection test, puisqu'on est encore en phase de finition du montage du film.
Dans quelles conditions est-ce que s'est créé ce documentaire? Est-ce que c'est une vieille idée que vous aviez? Parce qu'on voit dans le documentaire des images qui existent déjà depuis le Salon du Livre de Paris en 2003.
Oui, exactement. C'était en 2003 que j'ai commencé à tourner, en espérant trouver des financements et des chaînes et des gens qui m'auraient suivi. Et puis à chaque fois, des projets se montaient et puis se démontaient. 2003, c'est l'année où on a démarré un peu le tournage. Et puis après, j'ai suivi Bernard, surtout l'année dernière, puisqu'il avait eu une période très faste en voyage. Donc j'ai profité de ça pour pouvoir le suivre.
Ça s'est fait de façon un petit peu empirique. Je veux dire, est-ce que vous aviez une idée déjà depuis longtemps? Est-ce que vous avez tourné entre 2003 et toutes les images qu'on voit dans le reportage, des petites séquences?
Alors, oui, ça c'est. Bon, j'avais écrit quand même un projet de documentaire sur Bernard, sur son univers, sur ses livres. J'étais étonné qu'il n'existait pas de documentaire sur lui. Il n'y a que des films courts de 5 minutes sur lui, mais rien n'a été fait sur son œuvre. Et effectivement, je tournais chez lui de temps en temps, où il me montrait des documents chez lui. D'ailleurs, le tournage n'est pas fini puisque j'étais chez lui encore il y a quelques jours, où il a retrouvé des photos d'une expédition, de son expédition en Afrique avec les fourmis, où il était assez jeune, c'était avant le livre des fourmis, vous imaginez, et où il me donnait donc ces documents vraiment inédits où on le voit avec les fourmis d'Afrique.
Vous vous êtes mis une deadline pour terminer le documentaire ou...
Oui, j'aurais aimé finir le documentaire pour la fin de l'année. Maintenant, c'est vrai qu'on comme on, pour l'instant, il n'y a pas de chaîne de télé pour ce film et qu'on veut une sortie DVD avec des bonus, on hésite aussi parce que vous savez, en mars, ça va être les 20 ans des fourmis déjà. Donc il va y avoir certainement un événement autour de ça. Donc je ne sais pas encore si le DVD sortira à la fin de l'année ou fin d'année début janvier ou si on va prolonger un peu pour faire un événement avec la sortie des 20 ans des fourmis, ou peut-être Bernard sortira aussi un petit livret.
De votre côté, votre passion pour l'écriture de Bernard Werber, elle est née quand?
Ben moi, j'ai rencontré Bernard Werber parce que j'étais déjà un fan complet de ses livres et qu'un jour, j'ai voulu adapter un de ses livres en film, puisque mon métier, c'est de réaliser des films. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver et puis par hasard, sur un tournage d'un film, je l'ai croisé, un court-métrage d'ailleurs. Et voilà, c'est après on s'est lié un peu d'amitié. Mais je suis un fan absolu de ces livres, comme Le Père de nos Pères, Les Thanatonautes, tout ça qui m'ont vraiment changé ma vision du monde. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au cours de ces voyages, moi, ce qui m'a le plus bouleversé, c'est de voir qu'il était. Je savais qu'il était connu en Corée, mais je savais pas que là-bas, c'était presque un dieu vivant. Je me rendais pas compte à quel point, et on le voit bien dans le documentaire, le livre. Là-bas est très important parce que c'est presque un guide spirituel, un guide philosophique, Bernard Werber, en Corée ou en Russie. Les jeunes, quand on va dans une librairie, ils sont comme un peu chez nous dans les magasins de jeux vidéo. Il y en a des centaines et des milliers autour des livres. Et c'est très très important pour un écrivain, plus que ce qu'on pourrait imaginer en France.
Ça le gêne pas trop, ça, justement, Bernard Werber, d'être pas iconisé, mais pas loin, alors que...
Oui, il est un peu mal à l'aise avec ça à l'étranger, mais. Il fait toujours de l'humour, donc du coup, ça remet les choses à sa place et les gens s'aperçoivent qu'il est très abordable et très simple.
Oui, parce qu'il nous précisait bien qu'il n'a pas de message particulier à donner. L'important, c'est que les gens soient poussés à la réflexion par ses livres, mais pas qu'ils prennent pour argent comptant ce qui est indiqué. C'est à eux de réfléchir par eux-mêmes.
Voilà, c'est vraiment le message de ce livre. Il dit, faites-le, quoi. Vous aussi, vous avez un pouvoir créateur, vous aussi, vous pouvez faire des choses. Il veut les sortir du système. Et c'est peut-être pour ça qu'il est si aimé dans des pays comme la Russie ou la Corée, qui sont des pays neufs ou d'une nouvelle naissance, où ils veulent sortir du système. C'est ce qu'il dit un peu dans le documentaire.
Comment est-ce que vous avez réussi à avoir une telle proximité avec Bernard Werber? Parce que quand on vous voit l'accompagner, on a l'impression de temps en temps qu'il vous oublie, en fait. Il est en train de vivre tranquillement et vous êtes à côté, vous captez tous ces moments que vous retranscrivez dans le documentaire, mais il y a très peu de regards caméra, en fait.
Alors ça c'est le métier du documentariste, hein, plus ou moins talentueux, entre guillemets, de se faire oublier, mais en réalité personne n'oublie la caméra. Simplement, moi j'ai la chance d'être aussi son ami, et donc il y a une complicité peut-être plus que sur un autre film ou un autre sujet. C'est ce que j'ai voulu montrer dans le film, c'est d'être en coulisses complet avec lui, de donner aux gens l'impression en tout cas que de vivre ce que je vivais avec lui pendant une tournée en Russie, en Ukraine, en Corée, en Chine, avec lui, quoi. On voyage, et cette proximité, elle est due donc au fait que je fais beaucoup de documentaires et que je me fais tout petit, et aussi, je vous dis, évidemment, le fait que j'ai la chance et l'honneur d'être son ami, donc ça crée une confiance qui se voit, qui transparaît, j'en suis heureux si vous l'avez remarqué à l'image.
Tous les moments de voyage ont bien sûr été tournés comme ça sur le vif. Par contre, sur la section où on le voit chez lui devant son feu de cheminée, vous avez fait beaucoup de prises ou est-ce que vous l'avez laissé discuter librement?
Non, alors il y a une personne qui m'a aidé sur la partie feu de cheminée pour poser les questions. Une journaliste s'appelle Annabelle Baudin et qui m'a aidé à poser les questions. Ça a été assez long. Il y avait également deux caméras. Et après, on s'est rendu compte que malgré que ce soit long, comme il est très bavard, il manquait plein de choses. Et donc c'est pour ça, vous voyez, dans le film, il n'y a pas une seule interview, mais il y a plusieurs interviews, même quand j'étais tout seul avec lui, je lui reposais des questions sur d'autres sujets. Et c'est ça, la plus grande difficulté de ce film, c'est d'en faire une heure. Parce que j'ai 50 heures de rush, voire plus. Et comme il est très bavard, ça partait dans plein de domaines. Voilà, c'est pour ça qu'on mettra aussi des bonus dans le DVD, parce que là, j'ai été assez frustré de réduire. Mais c'est pas une seule interview, c'est plusieurs interviews et des thèmes qui se rejoignent. Mais la construction du film a été très difficile et j'ai été aidé également par une autre personne qui s'appelle Loïc Etienne, qui est un ami de Bernard et qui a pu avoir un regard extérieur et qui a également composé une musique originale sur le film qui rajoute beaucoup aussi au film. C'est un travail d'équipe, en fait.
Vous avez appris plus que vous ne pensiez de Bernard Werber après ce documentaire?
Alors, j'espère qu'il s'est livré un peu plus que... En tout cas, il se livre déjà à travers ses livres, hein, à travers les thèmes. Mais là, c'était surtout le plus émouvant, c'est la rencontre avec ses lecteurs. On sent que profondément, c'est quelqu'un qui aime ses autres lecteurs. Et ce que voilà, je savais qu'il était humaniste, mais j'ai appris un peu plus de son humanité. Malgré avoir écouté, parce qu'à chaque pays, bien sûr, il faisait des conférences, donc des dizaines et des dizaines de conférences, ben à chaque fois, j'apprenais et rajoutais une chose de nouveau dans chaque conférence. J'ai pas pu tout mettre dans le documentaire, mais je crois que c'est quelqu'un qui... J'apprends constamment avec lui, tout simplement parce que lui, il apprend constamment. C'est quelqu'un qui se remet en question tout le temps, il lit, il est ouvert sur le monde et qui veut tout le temps apprendre. Et ça, forcément, quand vous êtes en contact avec une personne qui dont son métier c'est d'apprendre, et bien vous apprenez aussi avec lui.
Dans les parties qui se déroulent à l'étranger, il y a énormément de gros plans sur les visages des personnes qui sont en train de l'écouter. C'est quelque chose qui vous a marqué ou qui lui le marque en permanence et du coup il vous a demandé de filmer ses yeux qui le scrutent et qui l'admirent.
Oui, alors ça c'est aussi mon expérience de réalisateur de documentaires. C'est ce qu'on appelle le contre-champ, c'est-à-dire que si je suis tout le temps sur le sujet, d'abord c'est usant, et puis mais ce qui est intéressant, c'est d'être aussi dans ses yeux, donc on est dans l'autre point de vue, et de voir en gros plan, vous l'avez bien souligné, à tel point il était adulé, adoré par ses fans, c'est quelque chose qui m'a marqué quand je rentrais dans ces salles qui étaient remplies de fans par milliers. Par un moment, on voit dans un amphi, d'ailleurs je n'arrive même pas à rentrer en Corée, je me fais piéger à une université, donc c'est son téléphone portable qui filme pour avoir l'entrée. Et moi, voilà, tellement que c'est de la folie. Et donc après, on a envie de voir en gros plan qu'est-ce qui se cache derrière, quelle est l'âme derrière ces jeunes qui sont là à l'écouter de façon totalement passionnée.
Comment est-ce que vous expliquez la difficulté qu'il a par contre au niveau des relations avec les médias en France? Apparemment, il n'a pas l'air de beaucoup aimer la presse. Il explique ça parce que apparemment il y aurait eu, on lui aurait expliqué au départ que soit il aurait un succès public, soit il aurait un succès critique, et on le sent toujours un petit peu sur la réserve de temps en temps quand il est en France, alors qu'il est tellement apprécié à l'étranger. Vous avez l'impression qu'il en souffre un peu de ça ou...
En souffre, je sais pas, puisque comme il dit, il a le public, donc c'est déjà les lecteurs. S'il a à choisir, et je pense qu'il préfère avoir plus de lecteurs et pas de bonnes critiques que l'inverse. Alors bien sûr, et ça fait jamais plaisir, et il aimerait avoir aussi de bonnes critiques. Ce qu'il a d'ailleurs à l'étranger, hein, en Corée ou en Russie, j'ai rencontré des critiques littéraires très poussées et qui lui faisaient des critiques de ses livres vraiment très intéressantes. Moi, je ne l'explique pas, je le constate encore avec le documentaire, puisque quand je présente le film, quand je vais voir des gens aux chaînes, on me dit, donc des médias, « Oh, l'écrivain, c'est trop élitiste, ça va ennuyer les gens, ou on ne connaît pas. » Parce que la plupart des gens, d'ailleurs, ne le connaissent pas, c'est surtout les jeunes. « Ah oui, mon fils le lit, mais moi, je n'ai jamais lu. » Voilà ce qu'on me dit comme réaction. Et à l'inverse, quand je vais voir des chaînes un peu plus élitistes comme Arte, on va me dire « Ah, mais c'est pas le Clésio, c'est trop populaire comme écrivain. » Donc, en fait, il vit dans un domaine où il est entre deux chaises. Et c'est ça, là, à mon avis, une des raisons, il y en a d'autres, hein, pour lesquelles il n'est pas très apprécié en France, c'est que il fait pas de la littérature avec un grand L, avec des phrasés qui permettent de concourir à des prix et d'avoir une critique de l'intelligentsia parisienne sur les livres. Et il fait de la littérature qui n'est pas non plus très très populaire, mais c'est entre les deux. Et du coup, ben voilà, il est mal aimé des critiques, mais et puis c'est surtout des adolescents, et les adolescents, ben vous avez vu son lectorat. Donc après, les critiques, voilà, c'est pas le genre de livre apparemment qu'ils aiment. Et puis il le dit aussi, il y a la science-fiction. En France, c'est quand même le parent pauvre de la littérature. La science-fiction, c'est pas du tout apprécié. Qui est-ce qui critique aujourd'hui les livres fantastiques? Voilà, donc il y a le genre qui est difficile, il y a à qui il s'adresse, et voilà. Et puis après, bon, ça fait boule de neige. Maintenant, il sait qu'il n'y a pas la critique, donc il alimente ça aussi peut-être un peu, je sais pas.
Le fait de pouvoir découvrir presque toutes les facettes de son talent, puisque on le voit jouer du piano, on le voit dessiner, donc on sait bien sûr qu'il écrit. C'était une volonté au départ, parce que vous saviez, vous, qu'il avait toutes ses cordes à son arc, ou est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure, parce que vous avez découvert toutes ses capacités?
Non, je le savais, d'autant plus que j'ai produit son premier court-métrage, et j'ai filmé le long-métrage qu'a produit Claude Lelouch, nos amis les Terriens. Donc je savais qu'il faisait plein de choses, et j'avais été frappé d'ailleurs sur le long-métrage, comment quelqu'un qui venait de l'écriture avait tout de suite compris comment fonctionnait le cinéma. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais qui est très visuel. Et ces facettes, c'est deux raisons. La raison, donc je le savais, mais c'était surtout pour montrer. Je pensais que moi aussi que ça allait être ennuyeux de montrer qu'un écrivain qui écrit pendant 52 minutes. J'ai voulu utiliser des images de ses courts-métrages, de son long, de ses pièces de théâtre, de ses dessins et des certaines archives. On le voit pour la première fois à la télévision. Pour que le film soit pas ennuyeux, plus les voyages, vous voyez. Pour qu'on me dise pas, c'est un film qui va être très intimiste, où il va. Et c'est aussi pour montrer que c'est un touche-à-tout. Et dans ses livres, c'est aussi voilà, on rejoint la question d'avant. C'est peut-être pour ça que les critiques ne l'aiment pas, c'est que dans ses livres, ben c'est très visuel son écriture. C'est une écriture qui est quand même extraordinairement visuelle, rythmée. Avec, il intercale souvent dans ses livres des petits passages de l'encyclopédie où on apprend des choses ou des blagues pour son dernier livre. Vous voyez, tout ça, c'est que c'est quelqu'un à part quoi dans la profession et dans c'est un ovni littéraire quelque part.
Est-ce que vous sortez une fois le documentaire alors presque achevé, encore plus, je peux pas vraiment dire fan, mais admiratif de son travail qu'avant?
Alors, en tout cas, je me demande toujours autant, j'ai pas résolu le mystère, il fait comment il a, parce qu'il a une créativité, une imagination, on le voit dans le documentaire, et ça je le triche pas, à chaque fois que j'étais avec lui, je me retourne, tac, il sort son ordinateur, il écrit, on est arrivé dans la salle d'attente pour attendre nos billets, il regarde même pas s'il va louper l'avion, il a une idée, il écrit. Et ça, oui, je continue à être admiratif et je l'explique pas, cette créativité, cette imagination, il a une idée à la seconde. Et ça, c'est vraiment très impressionnant à voir au quotidien. C'est quelqu'un qui, voilà. Et vous savez qu'il a mis un petit peu de vous dans le livre quand vous avez partagé ou croisé son chemin, et ça, c'est extraordinaire.
Quelle est l'image ou la partie ou la journée qui vous a le plus marqué lorsque vous avez réalisé ce documentaire?
C'est mon arrivée, c'est la première fois que je prenais l'avion avec lui à l'arrivée à Séoul, où il est reçu, je vous dis, digne d'un ministre. C'est une vraie folie à Séoul. Voilà, peut-être ce qui m'a le plus marqué, c'est un soir, on a dit on va partir de toute cette foule, on va aller dans un petit restaurant, une petite rue, manger des brochettes tous les deux. Et là, d'un seul coup, la serveuse l'a reconnu, lui a demandé, mais c'était vraiment un petit boui-boui dans un coin perdu, lui a demandé un autographe, et de fil en aiguille, au bout de 5 minutes, le restaurant il était envahi de fans. Et je me suis dit, ça c'est pas possible. Et je crois qu'il n'y a pas un Coréen qui le connaisse pas en Corée, quoi, à Séoul. Et ça, c'est vraiment de vivre ça avec une star de rock, avec un acteur, je veux bien, mais avec un écrivain, c'est impensable en France, quel que soit l'écrivain. Quoi.
Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Est-ce que vous avez un site internet sur lequel on pourra retrouver votre actualité et surtout la date de sortie du DVD?
Alors, on peut dès à présent s'inscrire pour avoir le DVD à un tarif préférentiel. Et dans le bonus, il y aura aussi un atelier d'écriture où Bernard Werber expliquera en 50 minutes les lignes les plus importantes pour écrire son premier roman. Donc ça va être passionnant, ça va être en bonus dans le DVD. Et ça, tout ça, c'est sur le site de Bernard Werber, donc bernardwerber.com. Et il a un lien où on voit la bande-annonce du documentaire et vous avez un lien pour vous inscrire. C'est gratuit pour l'instant. C'est juste de laisser votre mail et comme ça, moi, dès que je sais si je sors le DVD dans le mois qui vient ou un peu plus tard, ben j'avertis grâce à la liste tous les gens qui se sont inscrits sur son site.